VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 11 novembre 2019. Abdourahman Dia et Anne Alberson en direct de Washington. On démarre par les titres.
Brouille au sein de la coalition au pouvoir en RDC. Un proche du président Tshisekedi annonce l'arrêt de toute discussion avec le camp de son prédécesseur.
La présidence camerounaise annonce la tenue des législatives et des municipales, des scrutins déjà reportés à deux reprises.
Les autorités maliennes annoncent des mesures après la circulation d'une vidéo semblant montrer un problème d'insécurité à l'aéroport de Bamako.
En Bolivie, le président Evo Morales jette l'éponge et dénonce un mandat d'arrêt qu'il qualifie d'illégal contre lui. Des pays de la région dénoncent un coup d'État.
Ne ratez pas l'économie et les sports.
Mais tout d'abord, le journal.
En République démocratique du Congo, des tensions ont surgi au sein de la coalition au pouvoir qui réunit les forces du président Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Un proche du président a annoncé la rupture des discussions entre les deux camps, Nathalie Barge.
Le responsable du parti de Félix Tshisekedi et de sa coalition CAP pour le changement, Jean-Marc Kabund, a annoncé l'arrêt de toute discussion avec le Front commun pour le Congo. Monsieur Kabund accuse des individus d'avoir brûlé une affiche de monsieur Tshisekedi à Kolwezi sur la base d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Nous avons arrêté toute discussion avec le FCC jusqu'à ce que les responsabilités soient établies, a-t-il déclaré. Le gouverneur pro-Kabila de la province de Lualaba, Richard Mouyège, a affirmé que des portraits de M. Kabila ont également été déchirés. Il a qualifié ces atteintes aux effigies de M. Tshisekedi et Kabila de coups de folie qui doit s'arrêter tout de suite. Le FCC condamne les actes répréhensibles de ces dernières 72 heures posés par les militants des différents bords, a également déclaré son porte-parole Néhémie Mouilania.
La présidence camerounaise a annoncé dimanche la tenue d'élections législatives et municipales reportées à deux reprises pour le 9 février alors que le pays est confronté à une grave crise dans ses zones anglophones et fait face aux attaques djihadistes. Jean-Roger Bion.
Élu en 2013, le Parlement camerounais n'a pas été renouvelé en 2018, le président Paul Biya ayant décidé de prolonger le mandat des élus dans un pays ébranlé par des questions sécuritaires. Lors de la présidentielle de 2018, qui a conduit à la réélection de M. Biya, la participation avait chuté dans les régions anglophones, n'atteignant que 5% dans le Nord-Ouest. La majorité présidentielle dispose actuellement de 157 sièges au Parlement sur 180. Outre l'annonce de la tenue des élections et la libération de l'opposant Maurice Kamto, le pouvoir avait organisé un grand dialogue national début octobre où un statut spécial pour les régions anglophones a été proposé. La semaine dernière, les États-Unis ont durci le ton face à Yaoundé, dénonçant des violations grossières et répétées des droits humains internationalement reconnus. Washington a privé le Cameroun de son traitement commercial préférentiel.
Au Mali, la police a annoncé des mesures disciplinaires après la diffusion d'une vidéo suggérant un laxisme à l'aéroport international de Bamako. Selon les images circulant sur les réseaux sociaux, des passagers sont entrés sur le territoire sans croiser de policiers ni subir de contrôle. De nouveau, Nathalie Barge.
Une vidéo tournée à l'arrivée à Bamako d'un vol d'Air Mauritanie en provenance de Brazzaville dans la nuit de jeudi à vendredi a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, la direction de la police des frontières a expliqué que l'avion était arrivé plus d'une heure plus tôt que prévu. Les portes séparant la zone internationale du reste de l'aéroport étaient bien fermées, mais un agent de la direction des aéroports s'est permis d'ouvrir les portes avec sa carte magnétique sans en référer à la police et en violation des procédures, indique la police malienne. Les ministres de la Sécurité et des Transports se sont rendus depuis à l'aéroport, a ajouté la police dans un autre communiqué publié ce week-end, affirmant que des mesures disciplinaires ont été prises contre tous les agents qui étaient en poste. Le directeur général de la police rassure l'opinion nationale et internationale sur le fait que des dispositions supplémentaires seront prises afin que de tels incidents ne se reproduisent plus jamais, précise le communiqué.
Les financements étrangers de lutte contre le sida ont baissé en Côte d'Ivoire, alors que la maladie demeure un problème important de santé publique dans ce pays, selon des ONG. Le VIH demeure un problème important de santé publique avec une prévalence nationale de 2,5% au sein de la population générale de 15 à 49 ans, a déclaré hier le président des réseaux de lutte contre le sida et les autres pandémies lors d'une réunion des acteurs de la lutte à Abidjan. En 2018, les États-Unis, premier bailleur de fonds contre le sida, ont annoncé une aide de 140 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'épidémie de sida.
En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda est arrivé en tête des législatives, a proposé hier son chef historique Rached Ghannouchi pour le poste de président du Parlement. La priorité va au Parlement parce que c'est au sein de l'Assemblée que les lois et les décisions sont prises, a déclaré Abdelkarim Harouni, le chef du conseil de la Choura, l'organe consultatif du parti. Ennahda a remporté les législatives du 6 octobre en décrochant 52 sièges, loin toutefois de la majorité des 109 requis. Le parti conduit des négociations ardues en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. En revanche, le parti Ennahda n'a toujours pas indiqué son choix pour le poste de Premier ministre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité internationale dominée par la démission du président bolivien Evo Morales après 3 semaines de protestations contre sa réélection. Aussitôt après, une foule joyeuse célébrait la nouvelle dans les rues. Les détails avec à nouveau Jean-Roger Bion.
Je renonce à mon poste de président, a déclaré à la télévision le leader indigène de 60 ans au pouvoir depuis 2006. Ceci au terme d'une journée marquée par de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ainsi que des démissions en série de ministres et députés. Le vice-président Alvaro Garcia Linera, lui aussi démissionné, a dénoncé un coup d'État. En début de soirée, la police a arrêté la présidente du tribunal électoral de Bolivie, Maria Eugenia Choque, sur ordre du parquet, ainsi que le vice-président Antonio Costas. Le parquet enquête sur des irrégularités commises dans le scrutin d'octobre. Des milliers d'habitants ont déferlé dans les rues du pays pour célébrer l'annonce de la démission du président. Evo Morales a finalement cédé, dénonçant comme une décision politique l'appel de l'Organisation des États américains à l'organisation d'un nouveau scrutin. « Mon péché est d'être indigène, d'être producteur de coca », a-t-il lancé. Dimanche soir, il a d'ailleurs reçu le soutien immédiat des présidents cubains et vénézuéliens Miguel Díaz-Canel et Nicolas Maduro, qui ont dénoncé un coup d'État et exprimé leur solidarité envers leur frère président Evo Morales. Le président élu argentin Alberto Fernandez a également condamné un coup d'État. Le Mexique lui a offert l'asile.
Par ailleurs, le désormais ex-président Evo Morales a annoncé qu'un mandat d'arrêt qu'il qualifie d'illégal avait été émis contre lui. « Je dénonce devant le monde et le peuple bolivien qu'un officier de police a annoncé publiquement qu'il a reçu instruction d'exécuter un mandat d'arrêt illégal émis contre ma personne », a écrit l'ancien dirigeant socialiste sur Twitter. De la même manière, des groupes violents ont attaqué mon domicile. Les putschistes détruisent l'état de droit, a ajouté M. Morales, dont on ignorait dimanche soir où il se trouvait.
En Haïti, quelques centaines de manifestants ont défilé hier dans les rues de la capitale Port-au-Prince pour réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Ces nouvelles manifestations interviennent au lendemain de l'accord signé entre opposants et membres de la société civile visant à organiser la transition politique dans le pays après son départ. Selon l'ONU, au moins 42 personnes sont mortes depuis mi-septembre dans des manifestations organisées dans les principales villes en Haïti pour exiger la démission du président Moïse. Ce mouvement paralyse les activités économiques du pays.
Ici aux États-Unis, un élu républicain a pris le contre-pied de Donald Trump et des responsables du parti en s'opposant au témoignage public du lanceur d'alerte à l'origine de l'enquête sur des soupçons d'abus de pouvoir du président américain. Will Hurd, élu du Texas et lui-même ancien agent de la CIA, a indiqué que l'identité du lanceur d'alerte devrait être protégée. Après avoir entendu une dizaine de témoins à huis clos ces dernières semaines, la commission du renseignement de la Chambre des représentants doit démarrer à partir de mercredi lors d'auditions publiques.
En Espagne, le Premier ministre socialiste sortant a remporté hier les législatives, mais affaibli, Pedro Sanchez n'a pas amélioré ses chances de gouverner seul. Quant au parti d'extrême droite Vox, il est devenu la troisième force politique du pays. Après le dépouillement de près de 100% des bulletins de vote, le parti socialiste de M. Sanchez ne compte plus que 120 députés. Les socialistes espéraient obtenir une majorité claire pour mettre fin au blocage politique qui mine le pays depuis 2015.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Présent la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le budget 2020 de la République démocratique du Congo s'élève à 10 milliards de dollars, soit une hausse de 50%. Il devrait financer la gratuité de l'enseignement primaire public, officiellement mise en œuvre en septembre pour 2,6 milliards de dollars. Le projet de budget prend aussi en compte la volonté d'instaurer une couverture santé universelle. La plupart des Congolais n'ont aucune couverture sociale. Le gouvernement se soucie également du démarrage de la construction du port en eau profonde de Banana pour l'accostage des gros bateaux sur l'Atlantique. La demande d'énergie de la population africaine grandissante devrait augmenter deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale au cours des 20 ans à venir. Elle pourrait croître de 3,1 millions de barils par jour d'ici 2040. Les experts estiment que l'Afrique peut saisir l'opportunité unique de devenir le premier continent à se développer grâce aux énergies renouvelables et au gaz naturel si les décideurs mettent l'accent sur des technologies propres comme l'énergie solaire. L'air photovoltaïque. Pour terminer, la semaine dernière, le cuivre a atteint 6 011 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis fin juillet. L'or est tombé à Paris à 1 456,25 dollars l'once, un niveau jamais vu depuis 3 mois, alors qu'à Londres, il se négociait à 1 466 dollars l'once.
Maintenant, la page des sports avec Élisée Ungpatin. Et Élisée, on démarre avec le rugby, avec la qualification des Jeux Olympiques Tokyo 2020, tournoi de rugby à 7 dans la zone Afrique.
Oui, et la compétition a eu lieu à Johannesburg. Une seule place à prendre pour le vainqueur qui rejoindra l'Afrique du Sud déjà qualifiée. Et c'est bien sûr le Kenya qui s'impose en finale. Les rugbymen kenyans ont battu l'Ouganda 29 à 0.
Football, et on parle toujours de qualification olympique.
Et chez les filles, où une place directe est accordée à l'Afrique, on a eu droit au match aller des demi-finales. Le Kenya et la Zambie ont fait match nul, 2 buts partout. Le match retour est prévu ce lundi à Lusaka. Et pas de vainqueur non plus dans la seconde demi-finale entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, score 0 à 0. Les deux équipes se retrouvent donc demain mardi à Yaoundé.
Du côté des messieurs, les billets pour ces JO de Tokyo se distribuent au Caire.
Oui, et là, c'est la CAN des moins de 23 ans qui a démarré il y a 3 jours. Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire a battu le Nigeria 1-0, but de Silas Nyanka sur penalty et 0 à 0 entre la Zambie et l'Afrique du Sud. La veille, dans le groupe A, l'Égypte a battu 1-0 le Mali. Le Cameroun et le Ghana ont fait match nul, 1 but partout. A noter que les deux finalistes plus le troisième seront qualifiés pour les JO de 2020 à Tokyo au Japon.
Élisée, on reste sur le continent pour faire le point sur quelques championnats. Au Cameroun, Bombotos passe en tête.
Invaincu depuis le début de la saison, les Mangwa Boys ont poursuivi leur série en s'imposant avec la manière 2 buts à 0 à Fovou de Baram. Le club de Umuda, après 4 journées, occupe provisoirement la tête du classement avec 12 points devant Coton Sport de Garoua, 11 points et qui joue aujourd'hui face à PWD de Bamenda en RDC. Le Daring Club Motiba Pembe, vainqueur 3-0 de Sanga Balende, prend la deuxième place du championnat avec 20 points devant la SV Club, tenu en échec par le FC Lupopo de Lumbashi, score 1 but partout. A noter que c'est le tout puissant Mazembe qui garde la première place avec 25 points.
Au Bénin, au nouveau leader au classement à l'issue de la 5e journée.
Il s'agit de la jeunesse athlétique de Cotonou, victorieuse de UPONM 1-0. Le club entraîné par Vizi Touré, qui totalise 9 points, partage la première place avec l'Union sportive de Semekrake et Buff du Bogou. À signaler, les victoires en déplacement à Parakou, 2 AE et Daima, respectivement contre Real Sport 1-0 et Dynamo 2-0. Et puis, l'AS Tonnerre de Boycon, toujours en difficulté. Le club du peuple, à la recherche de sa première victoire cette saison, a été battu 3-2 à Candipa Beke FC de Bébéreke. Et puis, basketball pour finir, la NBA, les résultats de la nuit.
Denver a battu Minnesota 100-98. Charlotte battue à domicile par Philadelphie sur le score de 114-106. Indiana a battu Orlando 109-102. Milwaukee s'impose de justesse face à Oklahoma 121-119. Cleveland chez lui s'impose 108-87 face à New York. Brooklyn perd devant Phoenix 112-138. Atlanta perd devant son public face à Portland 113-124. Enfin, Toronto Raptors bat Los Angeles Lakers 113-104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui, Abdourahman Dia de nouveau avec vous. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les populations sont en colère depuis l'attaque terroriste contre le camp militaire d'Indelimane. L'attaque a fait plus de 50 morts parmi les soldats maliens le 1er novembre. Des marches ont eu lieu à Bamako et Kati. Et sur le terrain, l'armée a annoncé qu'elle se repliait de ses positions isolées par les récentes attaques djihadistes. Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
Situé dans la région de Gao, Indelimane se trouve à 200 km au nord d'Ansongo sur la route de Menaka. Basé là-bas depuis 2018, le poste mixte des forces armées maliennes FAMA a été attaqué le vendredi 1er novembre 2019. Maître Muntagatal, membre de l'opposition.
À attaque dramatique, on avait besoin d'une réponse urgente et forte. C'est de n'avoir précisément entendu aucune mesure forte sur la nécessaire couverture aérienne dont nos éléments ont besoin. Sur la sécurisation des camps, sur l'équipement des camps, il n'est pas normal que des soldats soient cantonnés sans eau, sans électricité.
Le président Ibeka s'est rendu à Gao et c'est dans le camp Firoun des FAMA qu'il a apporté son soutien aux soldats blessés à Indelimane. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Le monde est un environnement aujourd'hui où nous sommes quotidiennement agressés. Nous avons affaire à des gens sans foi ni loi. Soyez vigilants. Nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en de paix. Les comportements doivent changer. Les postes doit changer. On ne peut pas continuer à faire comme par le passé. Je vais faire ma prière, je mets l'arme contre le mur, ou je vais au talon, je mets l'arme contre le mur. C'est la mort. Parce que vous avez affaire à des gens qui vous surveillent. Nous, on ne les voit pas, mais ils nous voient. Ils nous guettent. La moindre faiblesse est exploitée contre nous. On n'a plus ce droit-là.
Comme pour dire que ce déplacement du président Ibeka ne suffit pas, les chefs de file de l'opposition trouvent que sa responsabilité est engagée dans les différentes attaques contre l'armée malienne. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition.
Banaliser la mort de milliers de victimes, civiles et militaires, en cacher le nombre réel et par conséquent être incapable d'avoir une couverture aérienne performante et le minimum d'équipement pour l'engagement et la protection de nos troupes sont entre autres des faits qui engagent manifestement la responsabilité du chef suprême des armées.
Certains parents des soldats victimes de différentes attaques ont protesté dans la ville garnison de Kati. Traoré Laliaba, manifestante.
Parce qu'il y a une force obscure que nous ne voyons pas, mais qui est là. On peut dire que c'est en quelque chose une sorte de trahison. On ne sait pas de la part de qui, mais on le saura. Enfin, le peuple reproche quelque chose à la France. Aux forces étrangères, la Barkhane, la MINUSMA.
À Bamako, le boulevard de l'indépendance a été investi par des jeunes et des femmes. Ils soutiennent les femmes. Amadou Cissé, manifestant.
Si tu as vu que ce que nous sommes en train de faire, c'est parce qu'il y a l'armée. Nous avons dit, il faut qu'on se retrouve ensemble pour dire à cette armée et que quand ils tournent le dos, le peuple malien est derrière eux. Et dire que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de tomber sur le char de l'honneur. C'est pour nous les Maliens, c'est pour la sécurité du Mali, c'est pour l'intégrité du total du Mali. On est venu dire, nous nous soutenons d'abord nos forces armées.
Sur le théâtre des opérations, les FAMA ont réajusté leur dispositif. C'est ce qui ressort d'un communiqué signé par le chef d'état-major des armées, le général de division Abdoulaye Koulibaly. Ainsi, les unités isolées vont être regroupées en points d'appui et centres de résistance. Dans ces choix opérationnels, d'autres unités seront également concernées. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un nouveau concept d'opération qui vise à mieux adapter la stratégie à la menace des terroristes, conclut le communiqué du chef d'état-major. Pour lui, il n'est nullement question d'abandonner la population. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Thank you. Au Niger, le président Mamadou Issoufou était ce week-end à Difa, une région secouée depuis 2015 par les assauts répétés de la secte islamiste Boko Haram. L'objectif de sa visite était de remonter le moral des troupes et soutenir les populations locales. Les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est la deuxième fois depuis la toute première attaque de la secte Boko Haram à Difa en février 2015 que le président Issoufou Mahamadou se rend dans la région. Face aux dures épreuves qu'elles ont endurées, les populations ont réclamé vainement une visite symbolique de compassion du chef de l'État. Bien que tardive pour beaucoup, celle effectuée en quelques heures dans cette matinée du samedi 9 novembre 2019 n'a pas été boudée.
Nous sommes vraiment très heureux de l'arrivée du président de la République parce que depuis un moment, la population de Difa vit dans une psychose à cause de l'insécurité et surtout, il y a encore le problème de l'inondation qui s'est ajouté. Et que depuis un moment, les gens attendent l'arrivée du président et il n'est pas venu. Mais aujourd'hui, il est là. Vraiment, nous sommes très heureux de son arrivée.
Au-delà du soutien aux populations civiles face à la terreur de Boko Haram, la visite du président Issoufou était aussi un signe d'un encouragement supplémentaire aux forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain.
Officiers, sous-officiers, militaires du rang, aviateurs, gendarmes, gardes nationaux et agents de sécurité de la place de Difa, je me suis fait le devoir de venir personnellement pour m'adresser à vous, vous qui êtes physiquement engagés sur le terrain pour combattre jusqu'à l'éradication totale du groupe terroriste Boko Haram.
À la place d'armes de la zone de défense numéro 5 de Difa, Issoufou Mahamadou s'est directement adressé aux militaires.
Vous qui êtes engagés en première ligne dans ce combat, je tiens à vous exprimer de vive voix toute ma satisfaction et toutes mes félicitations pour ce que vous faites sur le terrain. Je tiens aussi à louer votre professionnalisme et votre combativité. Je vous exhorte à plus de vigilance, à plus de collaboration avec toutes les autorités administratives, coutumières et religieuses, avec les populations dans leur ensemble, avec les humanitaires, les pays amis et partenaires stratégiques qui nous accompagnent.
La résilience de la secte Boko Haram tient au fait qu'elle mène une guerre d'usure, faite d'esquives et de retardement, a indiqué Issoufou Mahamadou, qui, prenant congé des militaires, leur a promis que l'ennemi sera vaincu. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Tchad, deux semaines après l'accord de cessez-le-feu intervenu entre les forces gouvernementales et le comité d'autodéfense de Miski dans le nord du pays, une délégation du dit comité a été reçue par le président Idriss Déby la semaine dernière à N'Djamena. La rencontre a permis de formaliser quelques points contenus dans l'accord afin de ramener la paix dans cette partie du pays. De N'Djamena, la correspondance d'André Kolmajingar.
Une rencontre qui a permis de mettre formellement en exécution trois points de cet accord. Il s'agit de la libération des membres du comité d'autodéfense faits prisonniers, la levée de blocus militaire de la zone de Miski et la réhabilitation des chefs traditionnels qui ont été limogés il y a environ un an. Une décision qui avait précipité la crise entre les autorités de N'Djamena et le comité d'autodéfense de Miski. Moli Sougui est le coordonnateur et porte-parole du comité d'autodéfense.
Nous avons dépêché une délégation constituée de sept membres du comité d'autodéfense défense à N'Djamena pour rencontrer le chef de l'État. Et séance dernière, il a décidé d'honorer une bonne partie de nos revendications et il nous reste encore des conditions primordiales.
Les deux conditions sont les découpages administratifs et l'exploitation anarchique de l'or dans cette zone. Tout en se félicitant de cet accord qui est un premier pas dans la décrispation de cette crise, le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, Mohamed Nouri Bidou, estime que ce document doit servir de base pour gérer les isolements dans d'autres provinces.
Au-delà de ce qui a été conclu, que cet accord puisse servir de base afin que tout cela s'applique dans les autres régions où l'or est apparu comme au Tibesti. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'or du Bata continue à être exploité au service exclusif de la famille du chef de l'État. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui ont amené le comité de l'autodéfense à ne pas accepter une mainmise rapide de la famille présidentielle sur l'or de Miski.
Le coordonnateur et porte-parole du comité d'autodéfense confirme qu'il est hors de question que l'or de Miski soit exploité pour enrichir des individus au détriment des zones productrices. Moli Sougui.
Nous voulons que l'exploitation se fasse dans un cadre légal de l'État. Et si cela contribue à réduire la pauvreté, nous, on ne voit pas l'inconvénient.
Ahmad Ramadan, membre de la société civile et natif de la localité, affirme que cet accord remet le compteur à zéro.
Il reste maintenant les problématiques dites de coupage administratif qui est la source de tous ces problèmes. Donc, ce sont les conséquences qu'on est en train de les gérer. Nous appelons la communauté internationale de suivre de près cette affaire. On a affaire à des hommes politiques et surtout le gouvernement tchadien et le président Déby n'ont jamais respecté leurs accords. Donc, il faut faire très attention.
Le ministre de la Communication, Oumar Yahya Hissène, affirme à VOA Afrique que les négociations qui se poursuivent sur le terrain sont encore au niveau préliminaire et donc il s'abstient de faire de commentaires. Toutefois, il confirme que les avis de deux parties convergent vers la décrispation de la crise pour amener la paix définitive dans cette partie du pays. André Kodnoumadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les personnes malvoyantes dénoncent la cherté de la canne blanche. Réunies ce week-end à Yaoundé, quelques 400 d'entre elles se sont aussi plaintes du fait que la qualité de cet outil essentiel pour leur mobilité ne soit pas toujours garantie. La correspondance d'Emmanuel Jutap.
Au son de la fanfare ce samedi, plus de 400 déficients visuels assistés des personnes voyantes paradent dans les rues de Yaoundé. Elles prennent part à la marche dite inclusive de solidarité pour sensibiliser sur l'importance de la canne blanche pour un handicapé visuel.
La canne pour le non-voyant est l'outil le plus important pour sa mobilité.
Jean-Baptiste Essono est déficient visuel.
Ma canne, malheureusement, s'est abîmée. Un taximan me l'a cassée. Je l'avais obtenue au travers d'un ami qui me l'avait offerte parce que la précédente que j'avais fait un accident de circulation où je m'étais fracturé le bras. Lors de cet accident-là, j'avais perdu celle que j'avais. Et jusque-là, c'est elle que j'utilisais. Je suis là pour recevoir une nouvelle pour cette manifestation.
De nombreux déficients visuels au Cameroun caressent le rêve d'obtenir gratuitement une canne blanche. Depuis l'an dernier, Godlove Sou utilise un simple bâton pour se déplacer. Ce résident de Bamenda en zone anglophone a dû voyager jusqu'à Yaoundé pour recevoir gracieusement une nouvelle canne blanche par le truchement du cercle des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun.
Je n'avais pas d'argent pour en acheter une nouvelle. Et s'il y avait même un moyen d'en acheter une autre, on ne peut pas avoir cette canne facilement parce que c'est difficile d'en trouver et le prix est aussi très élevé.
La canne blanche coûte cher. Son prix à l'étranger aussi entre 20 000 et 30 000 francs CFA, selon la plupart de ses utilisateurs au Cameroun. Des cannes qui ne sont pas adaptées au son rocailleux du pays. Un projet de fabriquer des cannes blanches localement a vu le jour, mais peine à se concrétiser. Coco Bertin, handicapé visuel, est l'initiateur de ce projet.
Nous avons même déjà quelques échantillons, mais elles sont encore très lourdes. Ça veut dire que la matière n'est pas très appropriée. Les recherches se poursuivent. Parce qu'une des caractéristiques, c'est que la canne blanche doit être légère.
Vous avez bénéficié de partenariats du gouvernement. C'est ce qu'il y a déjà que certains opérateurs économiques qui se sont engagés à vous soutenir.
Non, pas encore. Et je crois que c'est ça notre rêve.
Au terme de la marche dite inclusive et de solidarité, organisée en marge de la 39e édition de la Journée internationale de la canne blanche, la Grace Church of Philadelphia, une église évangélique américaine, a offert 1000 cannes blanches aux déficients visuels du Cameroun, reconnaissant pour ce don.
Très content d'avoir cette nouvelle canne. Parce que je n'avais pas l'argent, j'attendais effectivement cette journée. Je sais qu'on devait me procurer une nouvelle canne.
Ce que Coco Bertin fait avec l'initiation des cannes blanches, il a commencé par 100 cannes pour 100 aveugles. Chaque année, il y a toujours plus d'aveugles qui viennent. Tu ne peux pas rentrer sans canne blanche.
Le nombre d'aveugles au Cameroun n'est pas connu, mais selon le Programme national de lutte contre la cécité, il y avait en 2014 plus de 600 000 malvoyants et 200 000 aveugles. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Alberson pour la mise en onde et pour le suivi de l'actualité. Daryl Smith était à la console. Présentation Abdourahmane Dia. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.